Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Delperrier et Elisabeth Pinault. Elles nous parlent du projet « Traverser la crise en proche aidance ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre pose la question « Êtes-vous hypochondriaque? » Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet « Quand la maladie mentale sonne à la porte d'un couple ». On commence en chanson avec « Lendemain de veille ». La chanson s'intitule « Notre histoire ». Bienvenue chez nous.
C'est parti, on y va. Fais-moi confiance, tu regretteras pas. Accorde ta guitare, ramasse tes bâtons, monte sa charrette, puis montre-nous que t'es bon. Dis-moi donc, mon petit garçon, que tu vas slacker sa boisson. Fini l'école, arrête de rêver. Trouve-toi une job, essaye de te causer.
Trouve-toi une job, essaye de te causer.
Notre histoire, supposée dure et juste un soir, une longue nuit sans lendemain, devant nos chums et nos voisins. 10 ans plus tard, le chemin dans le corps, parti du chemin de la rivière Nord, y'a quelque chose qui nous tient pas loin, de la charrette à point. J'ai décidé de partir de la maison, suivre les étoiles, voir si la terre est ronde, va bien falloir s'en faire une raison. En bière, c'est pas la fin du monde. Je sais que le temps passera pas vite, la gloire ce sera pas pour tout de suite. Jouer dans les bars pour une poignée de scène, attendre le jour où on jouera ses pleines.
Attendre le jour où on jouera ses pleines.
C'est ainsi que notre histoire, supposée dure et juste un soir. De la charrette à foin. De la charrette à foin. Supposé dur et juste un soir, une longue nuit sans lendemain, devant nos chums pis nos voisins. 10 ans plus tard, le chemin dans le corps, parti du chemin de la rivière Nord. Y'a quelque chose qui nous tient pas loin, de la charrette à foin. De la charrette à foin. De la charrette à foin.
Vous écoutez Folie douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991.
J'accueille maintenant mes invités, Isabelle Delperrier. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour. À Folie douce.
Merci.
Et aussi Elisabeth Pinault. Bonjour Elisabeth.
Allô.
Alors, on va parler ensemble d'un projet assez novateur aujourd'hui qui se nomme « Traverser la crise en proche aidance ». Vous êtes toutes les deux de deux organismes qui ont décidé de s'associer pour faire un projet spécial. D'abord, Isabelle, pourrais-tu nous présenter l'organisme, le Transit Centre de crise que tu représentes?
Oui, absolument. Le Centre de crise, le Transit, c'est un organisme communautaire, un centre de crise qui existe depuis 1995 et on offre plusieurs services finalement qui sont gratuits pour les personnes en situation de crise. Le premier service, c'est l'évaluation. Dans le fond, on reçoit les demandes de personnes, soit directement des personnes elles-mêmes, soit de référents comme des psychiatres, des travailleurs sociaux, des hôpitaux, ou également les proches qui peuvent référer finalement des proches en situation de crise. On rencontre les personnes pour évaluer leurs besoins, pour essayer de comprendre leur situation, et ensuite on leur propose des services. Parmi les services que nous, on offre, il y a le suivi externe. Le suivi externe, c'est qu'on rencontre les personnes sur une courte durée qui va jusqu'à 6 à 8 semaines et on détermine avec eux finalement des objectifs de suivi pour pouvoir les accompagner au travers de la crise. On a également un service d'hébergement où là les personnes qui sont très fragiles, qui ont besoin d'un encadrement un petit peu plus structuré, vont pouvoir venir passer une dizaine de jours finalement maximum au centre de crise. Ça peut aller de 1 à 10 jours. La durée de l'hébergement varie finalement en fonction des besoins de la personne et de l'évaluation aussi des intervenants. Donc là, ils sont dans un contexte sécuritaire avec des intervenants en tout temps. Et de la même manière, ils travaillent sur l'activation, puis sur des objectifs de séjour en lien donc avec leurs besoins. On offre également du support téléphonique 24 heures sur 24 pour les personnes qui appellent, qui ont besoin de support de crise. Et depuis maintenant bientôt un an, on offre le support aux proches aidants dans le cadre du projet Traverser la crise en proche aidant.
C'est intéressant. Vous êtes situé pas très loin, je pense, d'Arborescence au centre-ville, vous aussi?
Oui, c'est ça. On ne donne pas l'adresse. On donne pas l'adresse parce qu'on donne l'adresse seulement au moment où on donne un rendez-vous. On passe d'abord par un pré-contact téléphonique. Mais oui, absolument, on est pas très loin du centre-ville.
C'est un peu la première ligne, en fait, avant d'aller à l'hôpital psychiatrique, si les gens, au lieu d'aller dans une urgence ou quelque chose, peut-être qu'à proximité, ça peut déjà désamorcer la crise.
Mais c'est le but, en fait, des centres de crise à la base, c'était vraiment de désengorger finalement les urgences psychiatriques à la base. Donc oui, effectivement, si on peut éviter une hospitalisation et que la personne est en capacité finalement d'assurer sa sécurité au centre de crise, on va prioriser l'intervention communautaire, tout à fait.
C'est intéressant. Donc, on disait tantôt, Elisabeth Pinault, vous êtes tuée de Arborescence, l'autre organisme qui a pris part à ce projet-là. Parle-nous donc d'Arborescence, qui est un nouveau nom, mais c'est un organisme qui existe depuis longtemps, qu'on connaissait sous un autre nom avant. Là.
Oui, absolument. En fait, Arborescence, c'est un organisme qui existe depuis 40 ans, qui s'appelait anciennement l'ACPAM. Puis nous, on offre des services vraiment aux membres de l'entourage, aux proches aidants de personnes qui composent avec des enjeux de santé mentale. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement un diagnostic précis là, pour être considéré comme une personne qui compose avec des enjeux de santé mentale, mais nous, on accompagne vraiment ses proches, son entourage, que ce soit parents, amis, fratrie, conjoints. Puis on offre une panoplie de services là, psychosociaux, entre autres le suivi individuel, donc des rencontres là, avec un intervenant psychosocial, une intervenante psychosociale qui vont s'installer pour vraiment détailler la dynamique de la relation, avoir un espace où ventiler, où imaginer des solutions. On a aussi des groupes d'entraide par rôle, en fait, là, donc des groupes de parents, des groupes pour les conjoints, des groupes pour la fratrie qui vont se réunir pour vraiment avoir un espace pour discuter, échanger des stratégies, parfois juste briser l'isolement.
Mieux se comprendre l'un l'autre, tu sais, parce qu'on a beau dire, mais je pense que les groupes d'entraide aident énormément beaucoup de gens. Les gens se reconnaissent, les gens se sentent plus à l'aise souvent, puis sentent qu'ils ne sont pas seuls. Là. Puis je sais qu'Arborescence, avec l'ancien nom, c'était probablement un des premiers organismes à faire ça, à s'occuper des proches aidants, tu sais, parce que la santé mentale, c'était souvent chez les gens, mais je pense que les proches aidants sont importants.
Exactement, absolument. Puis c'est un petit peu ça notre mission aussi, là, que ce soit par les groupes, par les suivis. On a aussi de la père aidance famille, donc des personnes qui eux-mêmes là, ont un proche, qui ont suivi une formation et qui maintenant offrent un accompagnement aux proches aidants, aux membres de l'entourage. Parce qu'en effet, ben oui, beaucoup de services, par exemple les centres de crise sont, ou même l'urgence psychiatrique, sont centrés sur la personne, t'sais, sur le patient, la patiente, la personne qui a des enjeux. Mais autour de cette personne-là, il y a plein d'autres personnes
qui peuvent s'épuiser aussi.
Ils peuvent avoir un épuisement. Des émotions aussi,
Absolument.
Des limites, des besoins.
Des fois, ils comprennent mal aussi. T'sais, ils n'ont peut-être pas vécu ce genre de situation-là, fait qu'ils ne savent pas trop comment faire. Donc, c'est très utile. Là.
Puis chez Arborescence, un autre service qu'on offre, c'est vraiment les ateliers psychoéducatifs. Donc, ils viennent vraiment détailler les différents troubles, détailler les différentes dynamiques, des différents thèmes aussi par des conférences. Mais on a vraiment aussi un volet de psychoéducation qui vient vraiment viser à mieux comprendre les enjeux. On dit souvent, t'sais, mieux comprendre, ça nous permet de mieux réagir.
Oui, exactement. Vous avez donc tous les deux organismes, en fait, ont décidé de s'unir pour faire un projet assez innovateur qui s'appelle Traverser la crise en proche aidance. Comment est né le projet et surtout qu'est-ce que c'est ce projet-là, peut-être, Isabelle, veux-tu?
Oui, en fait, c'est donc, comme on vient de le dire, Arborescence et Le Transit, c'est deux organismes très implantés dans la communauté qui sont phares en santé mentale, chacun avec notre spécificité à la base. Et on a voulu, les directions finalement ont voulu apporter un continuum de services auprès finalement des personnes proches aidants en crise, parce que nous aussi au centre de crise on faisait le constat souvent que quand les personnes en crise étaient référées par des proches, mais on voyait à quel point l'impact que ça avait sur les proches, à quel point ils pouvaient être ébranlés également par la situation. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a voulu créer un continuum de services pour faciliter l'accès aux services finalement aux proches aidants qui peuvent se retrouver eux-mêmes en situation de crise des fois finalement.
Oui, et ce projet-là, quand même c'est un projet pilote, mais comment c'est né en fait, qui a eu l'idée ou comment ça s'est mis ensemble tout ça?
C'est une collaboration vraiment entre les deux organismes qui constataient un trou de service. Ouais. C'est vraiment un petit peu comme ça qu'on pourrait l'écrire. C'est parfois dans les services chez Arborescence, il y avait des situations qui prenaient une ampleur, qui sortaient de notre expertise ou qui sortaient un petit peu de notre zone qu'on connaissait quoi faire.
Ouais.
Des situations plus complexes, des proches aussi qui étaient très envahis. On réalisait que dans le réseau, il n'y avait pas nécessairement une place pour ces personnes-là qui étaient à la fois proches aidantes, qui vivaient des crises, qui pouvaient être aussi à la fois en crise eux-mêmes ou qui avaient un proche qui vivait une situation extrêmement difficile et qui se sentait vraiment démuni, il n'y avait pas nécessairement un endroit où se retrouver ou briser leur isolement ou juste développer des outils. À la base, c'est ça, c'était un petit peu de... En fait,
c'est une espèce de manque qu'il y avait ou en tout cas une zone qui n'était pas couverte là, par vos deux organismes. En fait,
exactement.
Là, en vous unissant, probablement que vous vous aidez l'un l'autre. Là.
C'est ça. On le faisait en fait un petit peu chacun à notre manière. Puis c'était vraiment l'idée d'aller bonifier aussi l'expertise qu'on avait parce que, justement, c'est ce qu'on disait, il y a les apports psychosociaux d'Arborescence, les enjeux de crise au transit, puis dans la proche aidance, ce qu'on va voir, c'est que il y a des besoins quand la personne est envahie par les symptômes de crise. À ce moment-là, elle n'est pas forcément capable d'aller parler de la relation, elle n'est pas forcément capable d'aller trouver des outils, d'aller réfléchir. Elle a besoin d'être accueillie dans le vécu émotionnel immédiat, finalement envahissant. Et c'est là où, justement, on peut... les deux organismes peuvent se compléter beaucoup dans nos expertises puis dans l'intervention qu'on donne.
Qu'est-ce qu'on vise avec le projet pilote? Qu'est-ce qu'on espère probablement que ça se continue? Mais encore, est-ce qu'il y a des objectifs assez clairs là, ou si vous y allez un peu de l'essai-erreur ou comment ça fonctionne?
Ben, c'est vraiment de développer des services qui répondent aux besoins hein, des personnes puis de toucher le plus de personnes possible, d'aller vraiment chercher ces proches-là, ces personnes-là qui ont... Ben, en fait, ils ont des besoins, puis essayer de leur répondre. Fait que ça prend différentes formes. On est aussi en train d'expérimenter quelle forme est la plus adéquate pour ces besoins-là. Mais en ce moment, on offre entre autres le suivi psychosocial, le suivi de crise. On a aussi une série d'ateliers qui semblent vraiment en ce moment répondre à ce besoin-là d'une part, ben, briser l'isolement, d'une autre, en apprendre sur c'est quoi la crise, être mieux outillé, mieux équipé. Fait que c'est vraiment juste de créer une panoplie de services qui répond aux besoins qui étaient un peu particuliers, puis de créer une fluidité, puis un sentiment de confort que peu importe où la personne se retrouve, que ce soit au centre de crise à Arborescence, bien, elle se sente enveloppée, outillée, prise en compte dans sa situation qui est souvent un petit peu trop particulière pour avoir une réponse directe dans d'autres services. Donc, c'est vraiment de créer une offre de service qui est adaptée.
Et comment, de façon pratico-pratique, comment vous faites pour fonctionner la façon la plus fluide possible? Comment ça, tu sais, l'organisme est habitué de travailler à sa façon, chacun. Donc, comment vous arrivez à, je pense que ça se passe bien, mais comment vous êtes arrivé ou comment vous arrivez au quotidien à bien travailler ensemble?
Mais en fait, il y a vraiment deux niveaux, mais je dirais, c'est sûr que par une bonne communication, autant au niveau organisationnel qu'au niveau de notre complémentarité à toutes les deux. On a une chargée de projet aussi sur le projet, donc qui charge vraiment de la communication au niveau organisationnel, puis qui fait le pont avec nous.
Entre les deux, oui.
Entre les deux, puis nous, Elisabeth et moi, on se communique à tous les jours. Il y a des fois des interventions qu'on fait ensemble. Quand ça touche plus l'expertise de l'une ou de l'autre, on va faire de la co-intervention. Ou des fois des situations où, par exemple, dans le cas d'un deuil, mettons, les conjoints veulent être suivis tous les deux, mais chacun individuellement. Dans ces cas-là, on va pouvoir accompagner chacune, un ou une des conjoints, conjoints, conjointes. Donc, c'est vraiment par la communication puis la co-intervention qu'on travaille ensemble et également par des rencontres régulières, finalement, des organismes à différents niveaux. Des rencontres entre nous, puis des rencontres au niveau de nos directions, puis de nos directions cliniques.
Vous êtes peut-être en train de créer un nouveau modèle, tu sais, de s'entraider entre organismes complémentaires. Tu sais, c'est quand même, on ne voit pas ça souvent quand même dans le milieu communautaire ou dans le milieu de première ligne, d'une certaine façon. Là. Donc, c'est intéressant aussi l'approche. J'imagine que ça va vous donner, vous allez pouvoir analyser tout ça après le projet pilote. Ça a commencé quoi, en 2023, je pense?
2023, que tu me disais, absolument, en mars 2023.
Donc, c'est un 2 ans pour permettre de justement mettre les bases puis de voir comment vous voulez le poursuivre, si c'est possible.
Hein? Oui.
Absolument. Puis justement, d'assurer une fluidité dans les services, puis d'assurer justement que les personnes se sentent comme mieux outillées, puis que nous aussi, on se sente mieux outillés pour répondre aux besoins de la clientèle des populations.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surprise toutes les deux depuis, ça fait quand même quelques temps que le projet fonctionne, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées qui vous ont surprise positivement ou des choses que vous attendiez pas ou quelle est votre perception à date de ce projet-là?
Ben, beaucoup de choses. Effectivement, déjà, la forte demande, finalement, sans avoir fait quasiment aucune publicité à date. On a dépassé largement, finalement, les attentes qu'on nous avait demandées pour la première année. Moi, personnellement, la plus grande surprise que j'ai eue, ça a été au niveau des ateliers de crise, les groupes d'ateliers qu'on donne deux fois par an. On en a déjà fait un. Et ça a été vraiment très, très, très porteur, autant pour nous, mais surtout pour les clients qui étaient là. Le partage du vécu émotionnel, le support à l'intérieur du groupe et en même temps la réceptivité finalement aux outils psychoéducatifs, moi j'ai trouvé que ça a été vraiment une belle surprise, cette portée-là.
De ton côté, Elisabeth, est-ce que...
Absolument aussi. Je pense que la demande est quand même surprenante, puis la spécificité de la crise ou des enjeux de crise dans la relation de proche aidant, proche aidé, c'est quand même quelque chose qui est spécifique puis qui peut être surprenant aussi, comment pendant tellement longtemps quelqu'un peut avoir un rôle de pilier un petit peu dans une relation, avoir même imprégné ce rôle-là dans son intérieur. Et ça laisse très peu de place pour parfois les émotions, pour l'épuisement, puis on se ramasse vraiment à bout. Ouais. C'est ça qui peut être surprenant, à quel point quelqu'un peut se raconter pendant tellement longtemps qu'il est fort, qu'elle est forte, peu importe, mais qu'il y a encore des besoins, des émotions qui ont leur place et qui sont valides.
Ils doivent être exprimés.
Absolument.
C'est ça. Il reste quelques secondes seulement pour en savoir plus sur le projet. Je pense que du côté du site d'Arborescence, on peut avoir un peu l'idée du projet puis aussi les coordonnées pour être capable de vous appeler ou indirectement d'appeler aussi au transit. Quel serait qu'est-ce qu'il faudrait chercher sur le web?
Absolument. Ben, tapez Arborescence, arborescence.com, puis en dessous des services, traverser la crise en proche aidant.
OK. Puis on va suivre à ce moment-là ce projet-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Elisabeth Delperrier. Merci. Merci beaucoup aussi, Elisabeth Pinault. Merci et bonne continuation. On en parlera peut-être quand ça fera un certain temps. J'imagine que le projet va évoluer. Alors, merci de votre présence à l'émission.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Je voudrais briser tes chaînes. Je voudrais qu'on soit plus fort. Tu dis à nouveau pas la peine. Que je...
Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, tu poses une question. Êtes-vous hypochondriaque?
Oui, hypochondriaque, oui, qui est un terme qu'on entend à l'occasion.
Oui.
Qui définit ces gens qui ont une peur accrue ou exagérée d'attraper des maladies. On a tous peur, au fond, d'attraper des maladies, mais on essaie de pas trop y penser, je pense.
Puis j'ai l'impression, je rajouterais, je sais pas si tu en parles dans ta chronique, mais je rajouterais, depuis l'invention d'Internet, j'ai l'impression que le monde devient de plus en plus hypochondriaque parce qu'il s'agit de lire des choses sur Internet, puis des fois...
On se trouve des choses qu'on n'a pas.
Puis des fois, ça s'applique pas à nous, c'est ça que, tu sais, ça peut être facile de le devenir, en fait.
Peut-être, oui. Alors, c'est ça, j'ai trouvé un article sur Internet, comme à l'habitude, un article qui s'appelle « Êtes-vous hypochondriaque? » J'ai pris ça sur le site, tiens-toi bien, c'est le site familyprix.com.
Ah, ah.
Alors, c'est la place, j'imagine.
Ah oui, c'est la place. Ouais.
qui est ouais, pour traiter les maladies. Alors, ce qu'on nous dit sur ce site, c'est qu'on définit souvent l'hypochondrie comme étant la peur d'être malade. Ce n'est pas tout à fait faux, mais l'hypochondrie, c'est un peu plus que ça. En fait, c'est la crainte excessive d'être atteint d'une maladie grave. Bien souvent, la personne hypochondriaque interprète mal certains symptômes. Celle-ci mettra aussi en doute les bilans et examens médicaux. S'inquiéter pour sa santé ou pour celle de ses proches est normal, jusqu'à un certain niveau. En effet, dans la définition de l'hypochondrie, on retrouve le terme « excessif ». Si les craintes ne sont pas hors normes, c'est normal. Si l'anxiété générée par ces craintes devient trop importante, c'est là qu'on parle d'hypochondrie. L'hypochondrie peut se manifester par plusieurs comportements, comme analyser fréquemment son corps à la recherche de signes de maladie, s'inquiéter intensément du fait d'être atteint d'une maladie, être convaincu qu'un symptôme bénin est signe d'une maladie grave, passer trop de temps à faire des recherches en ligne concernant la maladie, aussi nommée la cyperchondrie, et multiplier les consultations médicales. Certains symptômes reliés au stress et à l'anxiété peuvent aussi se manifester. On peut notamment penser à des troubles du sommeil, une diminution de l'appétit, des difficultés de concentration, de l'irritabilité ou même de la colère ou de l'isolement. Les personnes anxieuses et celles qui ont un imaginaire développé sont les plus prédisposées. Les personnes hypersensibles ainsi que ceux ayant vécu une expérience traumatisante en lien avec une maladie ou la mort sont aussi à risque. L'adoption de saines habitudes de vie est la base du traitement des hypochondriaques. En effet, comme de mauvaises habitudes de vie peuvent entraîner des dérèglements du corps, les hypochondriaques pourraient interpréter cela comme étant les symptômes d'une maladie. La pratique d'activité physique fait partie des saines habitudes de vie, mais peut aussi être extrêmement bénéfique au niveau du contrôle de l'anxiété. Dans le même ordre d'idées, des exercices de relaxation peuvent avoir un effet bénéfique sur la gestion du stress. Afin de mieux vivre avec de l'anxiété, il existe des moyens à mettre en place. Comme par exemple, on nous dit « accordez-vous des petits plaisirs », comme par exemple écouter Folie Douce.
Par exemple, oui. c'est gratuit, c'est très agréable.
Alors, on nous dit « restez en contact avec des gens qui vous font du bien ». Limiter les facteurs qui vous causent du stress. Poser vos limites. Savoir comment interagir avec un proche hypochondriaque n'est pas chose facile. Il est normal de se sentir impuissant ou même frustré, mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. La personne a besoin de soutien et non pas de se sentir jugée. Sachez qu'il est inutile de contester l'angoisse de la personne hypochondriaque, mais vous pouvez tenter de lui expliquer que les symptômes pour lesquels il s'inquiète sont probablement explicables autrement. Lorsque la situation est incontrôlable et que les comportements liés à l'hypochondrie impactent de façon importante les activités de la vie quotidienne, il devient nécessaire de consulter un professionnel de la santé. Une thérapie est un traitement conseillé. Si la thérapie n'était pas suffisante, un traitement médicamenteux pourrait être tenté. Toutefois, les effets secondaires des médicaments pourraient avoir le résultat paradoxal de renforcer l'angoisse et les inquiétudes. La pandémie de la COVID-19 nous a plongés dans une réalité bien particulière, plutôt loin de la normalité à laquelle nous étions habitués. Cette situation peut affecter les gens autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Il est normal de se sentir insécure face à un virus et à sa propagation. Cependant, si ces craintes prennent trop d'importance dans notre quotidien, il est important d'en parler. Plusieurs ressources sont disponibles, comme par exemple le service InfoSanté 811. C'est une porte d'entrée pour trouver de l'aide et il ne faut pas hésiter à l'utiliser.
Et comme tu disais tantôt, dans le fond, même en consultant un professionnel, même pas pour gérer nécessairement l'anxiété que ça fait, là, puis les gens qui sont trop hypochondriaques, mais juste d'avoir un vrai diagnostic.
Ouais.
Avec un vrai médecin qui s'adresse à nous, mm-hmm. déjà, ça peut enlever un paquet d'interrogations. T'sais. Il va dire non, c'est normal, telle chose. Puis souvent, ça peut remplacer beaucoup de recherches là, qui vont faire monter l'anxiété, finalement.
Exactement, oui. Alors, j'ai un deuxième article aussi que j'ai choisi qui s'appelle « Crise d'angoisse et peur de la maladie mentale ». J'ai pris ça sur le site thérapie-comportementale.net. On nous dit « Voici l'histoire de Jo, J-O, Jo. Elle a peur d'avoir une maladie mentale. Elle nous dit « Je m'appelle Jo et j'ai 26 ans. Je vous écris pour vous faire part de ce que je vis actuellement et qui me fait extrêmement peur. Il y a 3 semaines environ, je me suis levé normalement avec mon copain. Lors du café, j'ai commencé à me sentir mal. Ma tête était lourde. J'avais l'impression d'avoir un ventilateur dans le cerveau. Mes jambes se sont crispées. »
La suite, on va l'avoir un peu plus tard à l'émission, à l'Espresso allongé. Êtes-vous hypochondriaque? Merci Pierre.
La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
C'est avec plaisir que j'accueille notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvon.
Alors aujourd'hui, ta chronique « Quand la maladie mentale sonne à la porte d'un couple ». On aurait pu avoir un effet sonore, ding-dong. La maladie mentale s'invite.
Oui, mais c'est comme ça que ça arrive des fois. En fait, si on pense un petit peu, on fait l'analogie, on se dit « Tiens, qui n'a pas eu un invité qui n'était pas désiré, qui sonne à la porte, hein, heure où on ne l'attend pas spécialement non plus. Et on est juste en train de faire un truc intéressant.
Ouais.
Et donc, en fait, je le pose un petit peu comme ça. Est-ce qu'on va ouvrir la porte? Est-ce qu'on va l'inviter même à s'asseoir, à boire un pot? On va discuter? Est-ce qu'on regarde par la petite œillère et puis on s'en court sans faire de bruit?
On l'ignore.
Ou bien on s'enfouit par la porte arrière et on le laisse discuter avec notre femme ou l'inverse.
Ouais,
d'accord.
Ouais.
Alors, donc voilà, toujours est-il qu'on va un petit peu se poser des questions pour voir dans le fond quand des personnes qui sont en couple apprennent que l'un d'eux a un trouble mental.
Ouais.
Ou traverse un problème de santé mentale, hein, c'est pas toujours permanent. Donc, un petit peu voir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des stéréotypes, de la stigmatisation? Et j'aurais des questions à te poser, Yvan.
Oui, OK.
Et d'abord, je vais te dire...
Je suis bon pour répondre, d'habitude. C'est pas que j'ai toutes les, réponses.
On va voir.
J'y vais.
Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse.
Il n'y a pas de mauvaise.
Alors... Si je te dis qu'une personne donc vient de dire à sa femme, ben voilà, j'ai tel problème, je suis diagnostiquée, voilà pourquoi je me comportais comme ça, etc. Est-ce que tu penses que sa femme ou son mari pourrait le quitter?
Il pourrait, mais j'ai pas l'impression que la plupart des gens le font là, mais il pourrait quitter. C'est plus la même personne. Souvent, la personne change.
C'est plus la même personne, c'est certain. C'est une personne qui est en cheminement, comme on chemine dans un couple en 30 ans, si ça fait 30 ans.
Mais souvent, c'est à long terme que la personne va le quitter. C'est pas au moment que la personne change. Des fois, c'est intenable. Là. C'est peut-être ça. Là.
Oui. En effet, on voit qu'il y a en général ou un renforcement du couple, ou il peut y avoir une séparation. Mais ce qui est principal à dire, c'est qu'en fait, c'est pas facile de quitter quelqu'un. Il y a un attachement. On aime cette personne. Donc, la plupart du monde, ils vont se responsabiliser par rapport à cette personne. Ils ne vont pas quitter la personne parce qu'ils apprennent que la personne a un problème de santé mentale.
Ouais.
Ça peut être à la longue, il faut faire le deuil d'une certaine relation. Si ça dure longtemps, si c'est passager comme un trouble physique pour être passager ou permanent, avec une jambe en moins, par exemple. Alors, on voit donc qu'il y a cet attachement et que c'est pas systématique. Bah, tu sais, la personne te quitte parce que tu lui dis ce que t'as. Alors, j'ai une autre petite question.
Oui.
Est-ce que on pourrait dire que une personne n'est pas responsable de sa maladie mentale et donc bon, on ne va pas lui en vouloir d'enfant. Hein. Moi, je n'en veux pas. Mon conjoint, il a telle maladie. Oh, je ne lui en veux jamais. Là, ce n'est pas de sa faute.
Ben, la maladie mentale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, la maladie mentale, je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais dans le fond, la maladie mentale, ce n'est pas quelque chose que les gens souhaitent avoir.
C'est très bien que tu ne comprennes pas ma question, parce qu'en fait, je ne voulais pas trop te donner d'indices non plus. Mm-hmm. Ce qu'il y a, c'est que ce que je voulais qu'on... arriver, c'est le fait qu'en fait, on peut en vouloir à l'autre. Oui, il n'est pas responsable qu'il ait une maladie mentale qui lui tombe dessus, ça c'est certain. Mais on peut en vouloir à la personne, on peut en vouloir parce que la relation évolue, pas toujours dans un sens qu'on a prévu. Et puis, je donne des petits exemples, il peut y avoir des sautes d'humeur, il peut y avoir de la fatigue, ou la personne pourrait ne plus être capable d'aller à un match de hockey, par exemple, alors que vous alliez tout le temps voir des matchs de hockey. La personne, la vie affective, intime n'est plus la même à cause des médicaments. Elle évolue, elle est très différente. Donc, ça peut être aussi des problèmes financiers. Ben, la personne s'arrête pour un bout de temps. Les finances ne sont plus les mêmes.
Ça cause un stress, là. Ouais.
Voilà. Donc, on peut en vouloir comme on en voudrait à notre conjoint pour un autre problème.
Mais en même temps, c'est indirectement, c'est pas trop de sa faute. Donc, on peut en vouloir à la vie ou à la situation, peut-être plus.
Au sort, oui.
Au sort, ou qu'est-ce qui se passe, c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas content de ça. Ça doit débalancer pas mal.
En même temps, bon, quelqu'un peut tomber au chômage. On peut en vouloir aussi à la société parce qu'un autre conjoint perd son travail. Ou on peut avoir d'autres problèmes financiers ou que sais-je.
Mais ça reste que c'est peut-être des perceptions. Des fois, tu sais, c'est ça, tu les évoques ici, mais c'est vrai que ça peut arriver que les gens vont comme pas faire la part des choses tant que ça. Ils vont dire, ben mon quotidien a changé, ma vie a changé avec cet être-là que j'aime et que j'aimais, là. Mais ce n'est pas nécessairement sa faute. Mais peut-être la perception est que la situation est comme dure à prendre.
Ben oui, c'est sûr. Mais en même temps, il ne faut pas dire on est des saints. Non. Parce qu'on peut avoir des sentiments de peur, de douleur, de colère à cause de la situation. Et tout ça, il faut exprimer au conjoint, il faut exprimer autour de nous aussi.
Ouais.
Il ne faut pas dire oh, mais non, je ne lui en veux pas parce qu'en effet, il n'est pas responsable. Il faut que la fumée sorte, en fait. Parce que sinon, si on garde tout pour soi, ça ne va pas aller non plus. Il faut vraiment communiquer, parce que c'est normal que ça arrive.
Et il y a de l'aide pour les proches. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Tu vas peut-être y arriver à un moment donné dans ta chronique, mais il y a de l'aide. Les proches aussi souffrent des situations de problèmes de santé mentale. Ce n'est pas la personne elle-même seulement qui souffre de ça. Là.
C'est ça. C'est ce que tu reçois des fois des gens qui sont des pères aidants. Ouais. C'est tout à fait ça. Il y a beaucoup d'associations, donc les gens pourront se renseigner s'ils se sentent concernés.
Oui, et pour les proches, même on peut faire une recherche aide pour les proches en santé mentale. Donc, il y a aussi des associations et des groupes qui aident les proches, c'est sûr.
Alors, encore une petite question.
Ben oui, on est bien parti.
Est-ce qu'il est possible de vivre serein avec une personne qui a un trouble de santé mentale, c'est-à-dire d'être satisfait de sa vie et d'être serein dans la vie qu'on partage avec cette personne-là?
Bien sûr.
Bon.
Que voilà. Oui.
Allez, on ferme, c'est
ben
fini.
Oui, bien sûr que oui. Ben oui, c'est certainement possible.
Ben oui, je pense que c'est tout à fait possible. C'est comme, ça prend de l'énergie quand même pour un rétablissement, comme pour une maladie physique, et un ajustement qui se fait d'une personne à l'autre. Il faut évidemment que les personnes s'entendent sur certains éléments, donc pour comprendre la maladie de l'autre, partager des informations, communiquer. Mais je pense en effet, tant que la personne est bien soutenue et désire partager la vie de l'autre, c'est un événement qui arrive ou un obstacle, comme peut arriver un autre événement pendant une vie d'un être humain.
Et c'est même important pour la personne qui vit des problèmes de santé mentale d'avoir quelqu'un de proche qui l'aide aussi. Tu sais, c'est important, l'entourage, on le dit souvent, c'est très important pour le rétablissement, là.
Oui, en effet, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être lourd aussi apporter. Donc, c'est pour ça que j'avais insisté sur le fait qu'il faut essayer vraiment d'en parler, de communiquer, pour pas avoir ça juste être l'unique personne qui dans le fond, porte ce poids.
Ouais.
Alors, une question qui est souvent posée, qu'on peut souvent se poser, en fait, je pense, est-ce que, de nos jours, est-ce que la stigmatisation vers la santé mentale est en diminution ou est en augmentation?
C'est difficile. Moi, j'ai de la difficulté à répondre à ça parce que j'ai l'impression, j'espère toujours que la stigmatisation va être moins présente, mais on a l'impression que ça va, ça vient. Oui, on en parle plus, mais il y a toujours une tranche de la population, on dirait, qui stigmatise les gens. Fait que c'est difficile à répondre, je ne pourrais pas dire.
Ben, je vais t'aider, en fait, je ne le savais pas non plus. Hein.
Ouais,
en fait, ces études, c'est ça, montrent qu'en fait, il y a malheureusement une aggravation dans les dernières décennies de la stigmatisation. Ça se traduit comment? Ça se traduit, comme tu parlais de ça, d'attitude négative des personnes. Donc, on ne va pas comprendre que, mais enfin, fais un petit effort. T'as quoi? C'est de la paresse, etc. Pour quelqu'un qui a une dépression. Moi, je venais au travail quand j'étais fatiguée ou quand j'allais pas bien.
Ça se dit encore, ce genre de...
Oui, mon Dieu, on entend ça, c'est sûr. Et puis, certaines personnes ont moins d'avancement au travail parce qu'elles ont été ouvertes avec leurs problèmes de santé mentale. Et ça provoque de la diminution d'estime de soi, ça provoque de l'isolement social, parce qu'on se sent stigmatisé, montré du doigt, et puis ça peut même aller aussi jusqu'au non-respect des traitements, parce que la personne se sent trop stigmatisée dans sa maladie, et donc elle dit non, un petit peu se mettre la tête dans le sable, en disant je veux pas prendre mon traitement, je me débarrasse de la maladie en même temps. Donc c'est important, donc il faut jamais s'arrêter, je pense, d'en parler, d'éduquer tout le monde, et en même temps, on peut rire de quelque chose. C'est un phénomène qui est très paradoxal et qui est très répandu dans les médias. C'est que la prescription d'antidépresseurs a explosé au Canada.
Ouais. Et
donc,
et pour les jeunes aussi, je pense, pour beaucoup de monde, pour la plupart des... Ouais.
Voilà, alors en même temps, c'est vraiment vouloir se voiler la face que de dire, que de stigmatiser, dans le fond, un problème de dépression ou un autre problème. Ici, je donne l'exemple de la dépression, parce que en fait, ça concerne énormément de monde. Donc, les gens vont finir par comprendre, tiens, c'est une maladie. Il y a donc des solutions, il y a des traitements. Elle doit être considérée comme est considéré un cancer, un abcès dentaire ou autre chose. C'est une maladie. D'accord. Donc, maintenant, je peux quand même un petit peu terminer ici notre histoire d'invité de la maladie mentale dans un couple. C'est qu'en fait, ça peut bien se passer en couple. Et le couple même est une force dans la traversée de cet épisode. Donc, épisode temporaire ou permanent. Le couple peut vraiment être une force ou... Ne nous voilons pas la face, ça peut être aussi une séparation, comme d'autres phénomènes de la vie ou obstacles plutôt peuvent donner lieu à des séparations. Mais ça peut donner lieu à un renforcement, à un couple assez unique qui se comprend et qui est d'accord sur les solutions et les niveaux d'implication du partenaire qui n'a pas la maladie et de celui qui a la maladie, quelle part il est prêt à faire pour que le couple se porte bien.
Parce que au début, ça peut des fois être déstabilisant pour l'autre partenaire parce que souvent, on n'a plus la même personne devant soi. Tu sais, les gens qui ont un problème de santé mentale, souvent, c'est comme une autre personne. Tu sais, on ne reconnaît plus la personne, fait que ça peut devenir déstabilisant. C'est ça qui est, si les gens sont capables de persévérer, puis d'appuyer, puis d'être là, des fois, à long terme, la personne qui a une problématique va peut-être s'améliorer. Donc, les choses vont entrer un peu plus dans l'ordre.
Oui, je pense que l'un et l'autre doivent faire un certain chemin. Et c'est sûr que la personne qui traverse le trouble, elle est un petit peu... On lui force la main pour faire un cheminement et s'adapter à son trouble et garder une qualité de vie. Mais l'autre personne peut, si elle est attentive et le souhaite, comprendre ces modifications et s'ajuster. Et donc, en faire quelque chose qui va enrichir le couple et l'entourage autour, tout leur entourage.
Comme d'habitude, on va donner quelques références sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section « Mentionner à folie douce » ou ta chronique. Il y a quelques références intéressantes là, par rapport au couple, quand la maladie mentale sonne à la porte d'un couple. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci, Yvon.
Au revoir.
Au revoir.
Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire, j'aurais pu compter tout. J'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire, j'aurais pu compter tout.
Écoutez Folie douce, déjà plus de 800 émissions traitant de santé mentale depuis 1991.
Nous poursuivons à l'émission avec ton sujet, ta question. Êtes-vous hypochondriaque, Pierre?
Oui, et j'avais commencé tantôt, j'avais commencé à entamer un deuxième article. Celui-ci s'appelle « Crise d'angoisse et peur de la maladie mentale ». J'avais pris ça sur le site thérapie-comportementale.net. Alors, je vais reprendre ce que j'avais commencé. J'étais pas tellement loin.
Oui, on avait laissé les gens un peu en plan. Oui. Alors, on va avoir l'histoire au complet.
Oui. Alors, on nous dit, voici l'histoire de Jo, une demoiselle, J-O, elle s'appelle, c'est ça, Jo, J-O. Elle a peur d'avoir une maladie mentale. Elle dit, je m'appelle Jo et j'ai 26 ans. Je vous écris pour vous faire part de ce que je vis actuellement et qui me fait extrêmement peur. Il y a 3 semaines environ, je me suis levée normalement avec mon copain. Lors du café, j'ai commencé à me sentir mal, ma tête était lourde, j'avais l'impression d'avoir un ventilateur dans le cerveau. Mes jambes se sont crispées. Une fois que je suis sorti dans la rue, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, ainsi qu'un mal-être global. Lorsque je suis arrivé chez moi, j'avais vraiment l'impression de perdre la tête. J'avais chaud, mes idées allaient dans tous les sens, c'était comme si j'allais exploser. Je n'arrivais plus à contrôler ce qui se passait à l'intérieur de moi et l'impression que j'allais mourir et perdre les pédales. Vous vous posez peut-être la même question car vous souffrez de crises d'angoisse peut-être ou d'anxiété forte. Est-ce que je suis normal? Est-ce que j'ai une maladie mentale grave? Est-ce que je suis fou ou folle? Vais-je finir en hôpital psychiatrique?
Beaucoup de gens se posent cette question-là. Hein? Ouais. Ça arrive souvent, les gens qui ont des symptômes comme ça, c'est très difficile à prendre.
Oui, ça peut être assez souffrant.
Ouais. Hein?
Alors, on nous dit c'est normal que vous vous demandiez cela. Les crises d'angoisse ou l'anxiété peuvent vous empêcher de travailler, d'avoir une vie normale et vous ressentez des symptômes qui vous paraissent bizarres. Parfois, le monde vous semble étrange ou vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Vous avez l'impression de ne plus être en contrôle de votre esprit et parfois que vous allez faire n'importe quoi et même faire du mal à quelqu'un. Alors, vous finissez aux urgences. Vous allez voir un psychiatre, un psychologue pour savoir ce que vous avez et la plupart du temps, vous n'obtenez pas de réponse ou bien on vous dit « Non, vous n'êtes pas fou ou folle et cela ne vous rassure pas. » Alors, pas longtemps. Et vous vous dites, et s'ils étaient passés à côté de quelque chose?
Ouais.
Vous passez aussi du temps sur les forums. Vous voyez les personnes qui parlent de leurs souffrances et de maladies mentales comme la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression. Vous vous reconnaissez dans certains symptômes et là, les ruminations mentales arrivent. Ce sont ces pensées qui troublent en boucle dans votre tête sans rien résoudre à votre problème. Vous vous dites « Je suis peut-être comme ces personnes des forums. » Alors, est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous allez finir fou ou folle ou est-ce que vous l'êtes déjà? Sachez que tout le monde peut au moins avoir une crise d'angoisse dans sa vie.
Et tout le monde peut reconnaître des fois des certains symptômes. Ça ne veut pas dire qu'on a la même problématique. T'sais, ça se peut que pour une...
Ça peut être passager.
Passager. Il faut faire attention.
Oui. Alors, on souffre tous plus ou moins d'anxiété, car s'inquiéter par rapport à notre avenir, la crise économique et les guerres et plein d'autres choses est normal. Mais lorsque vous vous inquiétez énormément pour beaucoup de situations et sur de longues périodes, les psychiatres parlent de troubles anxieux qui peuvent dégénérer en crise de panique. Tous ces termes peuvent vous faire peur, surtout si vous n'êtes pas du métier ou pas familiarisé avec le langage. Mais ce que je vais vous dire va vous rassurer. Les troubles anxieux ou les crises de panique ne sont pas des maladies mentales graves et sont surtout réversibles. Vous n'allez pas rester comme cela toute votre vie. Contrairement à la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la démence dont on ne guérit jamais. De plus, ces personnes n'ont pas eu ces problèmes du jour au lendemain. Cela s'est installé tout doucement et elles n'ont pas conscience de leurs problèmes. Autrement dit, un schizophrène qui n'est pas soigné ne se pose pas la question s'il est schizophrène et les hallucinations qu'il a sont vraies. Il les voit comme étant réelles. Ce sont les autres qui ne le comprennent pas. Il ne se dit pas « Est-ce que je vais devenir fou? » Il pense qu'il est tout à fait normal. Ce sont les autres qui ne voient pas ce qu'il voit. Il en est de même pour les personnes souffrant de troubles bipolaires, qui alternent entre des phases d'euphorie pendant lesquelles ils ne dorment pas, dépensent de l'argent ou ont des comportements désinhibés et ensuite des phases de dépression sévère qui les clouent au fond de leur lit.
C'est souvent après qu'ils réalisent ça, qu'ils avaient des hauts et des up and down,
oui,
là, des highs et des lows. Oui,
ouais, c'est pas drôle, c'est assez répandu.
Absolument, oui.
Ouais. Alors, vous avez conscience de ce que vous vivez. Vous êtes donc tout à fait normal. Vous avez seulement pris l'habitude de vous inquiéter trop et de penser négativement. Le fait que vous vous inquiétez indique que vous êtes parfaitement ancré dans la réalité et non dans un monde irréel peuplé de martiens dans de grandes soucoupes volantes, même si c'est vraiment une grosse caricature de la maladie mentale que je partage avec vous. tout va bien, vous n'avez pas de maladie mentale et personne ne sombre du jour au lendemain dans la folie. Cela vient au fur et à mesure. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle car j'ai travaillé 11 ans dans un hôpital psychiatrique avec de grands malades mentaux, nous dit l'auteur de cet article. La maladie mentale n'a rien à voir avec ce que vous imaginez et de toute façon, comme dans tous les services hospitaliers, les places sont chères. Je vous garantis que si vous étiez hospitalisé, ils vous reverraient rapidement chez vous. Mais alors, pourquoi avez-vous vraiment le sentiment d'avoir une maladie mentale grave? C'est d'abord ce qu'on appelle l'amygdale dans le cerveau, qui est le siège des émotions, qui provoque toutes les sensations désagréables et cette sensation de perdre le contrôle. Elle prend le dessus sur le cortex préfrontal qui, lui, s'il était en possession de toute sa puissance, vous dirait « Mais non, tu n'es pas fou, tu as juste les symptômes de la crise d'angoisse ou une anxiété trop forte. »
Merci Pierre pour ce sujet. Êtes-vous hypochondriaque? On aura les références sur, dans notre section, dans la section mentionnée à Folie douce sur notre site antenne.qc.ca.
Écoutez l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Avant de terminer ce rendez-vous radiophonique Folie douce, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues à notre émission cette semaine.
Oui.
La première, Notre histoire.
Oui, de Lendemain de veille.
On a entendu À quoi tu rêves?
De Brad.
Dans la deuxième partie de l'émission, Hématome.
De L'impératrice.
Et à l'instant, Vol à l'étalage.
De Les trois accords.
Merci beaucoup pour ce choix musical ainsi que pour ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Et merci aussi pour ta question. À l'espresso et à l'espresso allongé, êtes-vous hypochondriaque? Faut faire attention à ça, on peut devenir assez vite. Nos invités en début d'émission, Isabelle Delperrier et Elisabeth Pinault, nous ont présenté le projet Traverser la crise en prochaine danse. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a proposé sa chronique Quand la maladie mentale sonne à la porte d'un couple. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.